qui prendra ensuite son plein développement avec Heidegger. L'être dans le monde. Mais il faut voir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la connaissance aristotélicienne? Non. L'être dans le monde, c'est déjà l'annonce que la rupture est comme faite. Loin d'affirmer le lien de l'homme et du monde, le lien de l'homme et du monde n'est plus affirmé, là je dis les choses les plus sommaires, mais exprès, le lien de l'homme et du monde n'est plus affirmé que par et dans l'angoisse. C'est-à-dire ce qui reste de complicité est sauvé, mais sauvé par quoi? Par l'angoisse et le tragique. C'est exactement ce que dira Rodriguez. Lorsque, dans un chapitre fondamental de Pour un nouveau roman, dans le texte Nature, humanisme, tragédie, il reprochera encore à Sartre d'avoir maintenu une complicité de l'homme et du monde sous la forme de l'être dans le monde des phénoménologues. Mais cette complicité, elle est déjà tellement menacée qu'il ne peut la maintenir que sous la forme du tragique. Et le lien de l'homme et du monde, il sera éprouvé dans la nausée. Si bien que Rodriguez peut dire, bon, peut faire le pas ultime, dire, mais fini tout ça. Il n'y a même plus lieu d'invoquer le tragique pour sauver la complicité de l'homme et du monde. Même plus lieu. Il n'y a aucune complicité de l'homme et du monde. Aucune solidarité de l'homme et de la nature. Ce qui revient à dire quoi? Il y a perte de monde. L'homme est en perte de monde, et c'est déjà ce que disait, aussi bien de deux manières très différentes, ce que disait Heidegger et Sartre, lorsqu'il parlait de l'angoisse. L'homme est en perte de monde. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, là, ça se cache même plus, la rupture du lien sensorimoteur est faite. Bien sûr, le lien sensorimoteur, ça marche dans des conditions artificielles. Si on isole un circuit nerveux, si on isole une région du cerveau, bon, ça peut marcher. Dans des conditions d'expérimentation. Mais à la lettre, ça ne sert même plus à établir un rapport entre l'homme et le monde. Rupture du lien sensorimoteur, on l'a vu, en effet, et c'est là le paradoxe sur lequel j'essayais d'insister la dernière fois. L'homme est en rupture avec le monde, d'autant plus que le monde est fait de part en part par l'homme. Plus le monde est humanisé, artificialisé, plus l'homme est en rupture avec ce monde pénétré par l'homme. Et en effet, on comprend bien pourquoi. Dans la mesure où le monde se présente là comme à travers une vitrine, dans la mesure où le monde, où la rupture sensorimotrice supposée faite, dans la mesure où nous nous trouvons devant là ce qu'on appelait l'année dernière des situations optiques sonores pures, auxquelles tantôt on ne réagit même pas. Tantôt on réagit sans y croire, atteint par des événements qui nous concernent qu'à moitié. Qu'est-ce qu'on a vu toute l'année dernière? Situation optique et sonore pure. Événements qui, quand ils nous touchent, même la mort, même la maladie, nous concernent qu'à moitié. Ne concernent qu'à moitié celui à qui ils arrivent. Espace vide et espace déconnecté. c'est les trois formes. Situation optique pure, événement non concernant, espace vide ou déconnecté. Cette espèce de monde vitrine qui procède par slogan, réclame, etc., mannequin, etc., où le caractère automatique prend en effet toutes les dimensions que vous voulez. À la limite, la rupture est telle que, qu'est-ce qui se passe ? Nous ne pouvons même plus croire en ce monde-ci. Et ce que j'essayais de dire la dernière fois, c'est uniquement ceci, la rupture sensorimotrice, ou si vous voulez, la rupture de la conformité de l'accord nature-esprit comme monde, nous met dans une situation que le problème de la croyance remplace celui de la connaissance. À savoir, comment pouvons-nous, comment pourrons-nous croire à ce monde-ci tel qu'il est ? La question de la croyance n'est plus comment croire en un autre monde ou croire à la possibilité de transformer ce monde, mais comment croire à ce monde-ci ? Quelle raison ai-je de croire à ce monde ? Je ne reviens pas là-dessus, puisque j'ai essayé de le développer beaucoup, et je résumais ça là en suivant alors du coup Godard, et voilà qu'on tombe sur « Si c'est le monde qui fait du cinéma, qu'est-ce qui se passe ?»« Si c'est le monde qui fait du cinéma, comment pouvons-nous croire au monde ?» Qu'est-ce que nous demandons ? Qu'est-ce que nous demandons aujourd'hui ? Non pas croire dans un autre monde, non pas croire même aux possibilités de changer le monde. Nous demandons de croire en ce monde-ci. Nous demandons des raisons de croire en ce monde-ci tel qu'il est. Nous avons besoin dès lors d'une éthique ou d'une foi. Et j'invoquais Rossellini, parce que les textes de Rossellini me semblent admirables, lorsqu'il refait l'opération de Tolstoï. Nous avons tellement besoin d'abandonner l'art. Abandonner l'art, on parle toujours de ceux qui ont abandonné l'art, hein, je ne sais pas qu'on en parle trop, dans des conditions qui restent malgré tout mystérieuses. L'arrêt Rimbaud, d'autres arrêts. Et puis, il y a un autre type d'arrêt, mais parmi les très grands qui ont arrêté quelque chose, c'est Jean Tolstoï qui décide que l'art ne vaut pas une heure ou ne vaut plus une heure de peine. Et Rossellini, il me paraît assez tolstoïen lorsque Rossellini dit « Oh non, moi, le cinéma, c'est fini, du moins du point de vue artistique. Ce que je demande, c'est une éthique ou une foi. » Une éthique ou une foi, bon. Pourquoi est-ce que l'art ne suffit plus ? Il le dit très bien, Rossellini. Et je veux dire, sa réponse vaut là pour ce point de mon analyse. C'est que l'art a complètement entériné la rupture de l'homme et du monde. L'art ne cesse de chanter la perte de monde. Et Rossellini dit très bien. Je peux lire un court passage qui me paraît très beau dans Rossellini. Je ne sais pas où c'est. Qu'est-ce qui m'agace ? Qu'est-ce qui me fâche dans le monde d'aujourd'hui ? Le monde d'aujourd'hui est un monde trop vainement cruel. C'est l'exercice d'un voyeur, d'un vicieux. Disons-le, c'est cruel. Je réagis violemment à ça, puisque je crois fermement que la cruauté est toujours une manifestation d'infantilisme, toujours. Tout l'art d'aujourd'hui devient chaque jour plus infantile. Ça me paraît d'une vérité, alors. Chacun a le désir fou d'être le plus enfantin possible. Je ne dis pas ingénu, enfantin. De l'infantilisme, nous sommes tombés au plus bas de l'échelle humaine. Nous sommes passés au singe anthropomorphe. Nous en serons bientôt à la grenouille et à l'anguille. Ça, c'est bien. C'est ça qui me fâche. C'est ce manque total de pudeur. Cet infantilisme, nous l'avons vu dans le nouveau roman. Il a raison de la lettre si on définit l'infantilisme à part cette espèce de sentiment de la perte de monde, de rupture de l'homme et du monde. Cet infantilisme, nous l'avons vu dans le nouveau roman, nous le voyons sous une forme absolument incroyable en peinture. Nous en sommes arrivés à la vanité totale, au maladif. Et cela dans un monde qui devient tous les jours plus sérieux, plus complexe. Or, puisque ce monde est fait par des hommes, je dois toujours l'accepter malgré les plaintes dans le genre de « nous marchons à la destruction générale, la bombe atomique, etc. » Aujourd'hui, l'art, c'est ou bien la plainte, ou bien la cruauté. Il n'y a pas d'autre mesure. Ou bien on se plaint, ou bien on fait un exercice absolument gratuit de petite cruauté. Si vous pensez à la peinture bout d'organe, et des petits bouts d'organe, la peinture et tout ça, c'est vrai tout ça. Alors, il explique, bon, moi je fais plus tard. Et je vais vous faire un cinéma qui sera un cinéma de l'éthique ou de la foi. C'est-à-dire ce qu'il appelle un cinéma uniquement didactique. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Parce que pour lui, le problème, c'est pas entériner la rupture de l'homme et du monde. C'est trouver les moyens de redonner des raisons, quelles qu'elles soient, de croire à ce monde-ci. Alors, il peut être catholique. C'est un catholicisme qui n'a strictement aucune importance, sauf peut-être pour lui. Vous comprenez qu'à ce moment-là, catholique ou athée, je disais, il n'y a strictement aucune différence. Même les auteurs, c'est même frappant, que tous ces auteurs qui, après Kant, sont allés dans le chemin substituer la croyance au savoir. Tous ces auteurs ont fait en même temps une conversion de la croyance très curieuse. Je dirais, à mon avis, mais là, il faut être prudent, d'une certaine manière, c'était déjà comme ça chez Pascal. Si Pascal est un des premiers, avant Kant, à avoir mis la croyance plus profond que le savoir, et même à avoir remplacé le savoir, y compris le savoir mathématique, par la croyance, c'est parce qu'il faisait subir à la croyance ou à la foi aussi une conversion très curieuse, à savoir, la croyance et la foi consistaient à croire à ce monde-ci. Ce dont il s'agissait, c'était qu'on nous redonne le monde, qu'on nous redonne un lien de l'homme et du monde. Et c'était ça, croire. Croire, c'était retrouver une raison, ou trouver des raisons de croire au monde, c'est-à-dire un lien de l'homme et du monde. Alors quand Rossellini dit non, j'appelle infantile toute position qui tire sa joie de la rupture de l'homme et du monde. À ce moment-là, ça ne peut être que géniardise ou cruauté. Je réclame une croyance. C'est pas au nom du catholicisme. C'était déjà dans Kierkegaard. Kierkegaard, la croyance, ça consistait « redonnez-moi le monde ». Redonnez-moi le monde, ce monde-ci. Chez Pascal, le pari, c'est « redonnez-moi le monde, ce monde-ci ». Si bien que, en même temps que la croyance se substitue au savoir, la croyance connaît une conversion fondamentale. Que, à mon avis, on retrouverait chez tous les auteurs qui participent à cette substitution de la croyance au savoir. Ils convertissent tous de manière très différente. Tous convertissent la croyance qui cesse d'être croyance dans un autre monde pour devenir croyance dans ce monde-ci, c'est-à-dire restauration d'un rapport de l'homme avec le monde. Et ce que Rossellini veut faire, c'est précisément, et c'est pour ça qu'il invoque l'éthique par-delà l'art. Ce n'est pas une question là, de morale comme ça. C'est qu'il pense que l'art est incapable de renouer un lien de l'homme et du monde. Il faut une éthique, il faut une foi, dit-il. Bon, de la même manière, si je prends... quand je disais rapidement Godard, tout le monde sait, lui le premier, le dit, ce qu'il doit à Rossellini. Je crois qu'il a très bien compris ça de Rossellini. qu'il a admirablement compris de Rossellini, c'est que le monde fait du cinéma, comme il dit lui-même. Le monde, c'est devenu un cinéma. Dès lors, rupture de l'homme avec le monde. C'est la rupture, c'est l'effondrement du chaîne sensorimoteur. Nous sommes dans le monde comme devant des situations optiques et sonores pures. Nous sommes dans le monde comme devant une vitrine qui nous montre une série de choses abominables ou une série de choses excitantes, ce que vous voulez avoir le choix. Nous demandons des raisons de croire au monde, c'est-à-dire on est bien forcé. La rupture sensorimotrice signifie que nous n'avons plus de réaction pour ce monde. Dès lors, la seule possibilité pour que l'on retrouve des réactions, c'est d'abord de retrouver des raisons de croire à un lien de l'homme et du monde. À ce moment-là, sûrement, si l'on retrouve un lien de l'homme et du monde, par là même, ce lien constituera une nouvelle forme d'action. Mais si vous ne retrouvez pas la croyance en un lien quelconque de l'homme et du monde, si vous ne rentrez pas dans la catégorie, comme dirait Kierkegaard, de l'éthique ou de la foi, une foi qui soit une foi dans ce monde-ci, pas question de retrouver de l'action. Alors, quand je dis Godard, il a compris quelque chose de Rossellini, c'est exactement la question qu'il pose au cinéma moderne. Et généralement, quand Godard pose une question, c'est lui qui répond. Il n'attend pas que quelqu'un d'autre lui donne la réponse. Ce sera à nous, dans le courant de l'année, de voir dans quel sens il va pour donner sa réponse. Mais si c'est vrai que le monde fait tout un cinéma, est-ce qu'il n'appartient pas au cinéma des cinéastes de mener la critique de ce cinéma qui fait le monde? Et à travers cette critique, de restaurer un rapport de l'homme et du monde. C'est-à-dire de nous donner une raison de croire au monde. Si nous ne croyons plus au monde dans la mesure où le monde fait du cinéma, est-ce que le cinéma n'est pas capable de nous redonner une croyance au monde? Si bien que ce serait ça uniquement la fonction du cinéma. Je dirais non plus du tout nous donner l'illusion d'un monde, mais nous donner des raisons de croire au monde. Et en sens... Le cinéma serait le seul art, ou peut-être le non-art, capable de nous donner des raisons de croire au monde. D'où la question, et qu'est-ce que c'est croire au monde? On avait commencé à le voir, ben croire au monde. C'est forcément croire à la vie dans le monde. Et qu'est-ce que c'est croire à la vie dans le monde? Dans ce monde-ci, là, croire à la vie dans le monde, c'est-à-dire que malgré les vitrines, il y a quelque chose qui vit. Ou entre deux vitrines, ou quelque part, il y a quelque chose qui vit. Si bien que croire ou retrouver des raisons de croire au monde, c'est quoi? C'est avant tout croire au corps. Mais en quel sens croire au corps? Et qu'est-ce que ça veut dire croire au corps? C'est évidemment le corps qui est le lien de l'homme et du monde. Croire au corps, non? Alors, le cinéma, dans son intention moderne, ce ne serait plus. Il aurait rompu avec le modèle du savoir, avec toute image du savoir et de la connaissance. Il serait passé du côté de la croyance. Ce serait l'art capable de nous redonner des raisons ou de nous donner des raisons de croire au monde, c'est-à-dire de croire à la vie ou de croire au corps. Bon, est-ce que c'est comme ça? En tout cas, on voit bien les deux aspects. L'image moderne cinématographique est fondamentalement, je disais, une image coupée du monde. On verra de plus précisément pourquoi, mais j'invoque pour le moment uniquement les grands ancêtres du cinéma contemporain, soit Dreyer, image coupée du monde, type chez Dreyer. Bresson. Et en nous donnant l'image coupée du monde, elle prétend nous donner des raisons de croire nous redonner des raisons de croire au lien de l'homme et du monde. Si c'était ça, ce serait une activité étonnante du cinéma. Il ne s'agirait plus du tout, encore une fois, d'interroger là, le rôle du cinéma par rapport à l'imaginaire, problème, moi je ne sais pas pourquoi, qui est mes cœurs d'avance, qui m'avait sans aucun intérêt. C'est pas ça. C'est une question de croyance, et ça ne veut pas dire croire à l'histoire qui se passe, puisqu'il n'y a plus d'histoire, justement. Non, vous donnez des raisons de croire au monde. C'est la faute du monde. Le monde s'est mis à faire du cinéma, bon, eh ben, c'est au cinéma de nous donner des raisons de croire au monde. Ça impliquerait au moins un caractère politique du cinéma. Alors, c'est ça qui m'amenait à mon second, vous voyez, là, je fais des tout ça, on en est encore à construire notre programme, c'est de dire, mais, je disais, le deuxième aspect, la deuxième mutation de la pensée, c'est donnez-moi un corps. Et j'avais dit la dernière fois, ben oui, c'est plus le corps qui gêne la pensée. C'est fini, ça. Dans le modèle du savoir ou de la connaissance, ben, le corps, il sépare la pensée d'elle-même. Maintenant, non. Donnez-moi un corps. Donnez-moi un corps ou redonnez-moi des raisons de croire au monde, c'est pareil. Un texte admirable d'Artaud, Position de la chair. Le dit, c'est un texte si beau. C'est dans le tome 1 des œuvres complètes. Donc un texte du début d'Artaud. On voit très bien l'identité. Retrouver des raisons de croire au monde. Redonnez-moi un corps. Il y a des cris intellectuels, des cris qui proviennent de la finesse des moelles. C'est cela, moi, que j'appelle la chair. Je ne sépare pas ma pensée de ma vie. Bon. Il faut avoir été privé de la vie, de l'irradiation nerveuse de l'existence, de la complétude consciente du nerf, pour se rendre compte à quel point le sens et la science de toute pensée est caché dans la vitalité nerveuse des moelles, qui font un sort, etc. Je suis un homme qui a perdu sa vie et qui cherche par tous les moyens à lui faire reprendre sa place. Il est évident que dans le texte d'Artaud, c'est la seconde partie de la phrase qui compte, et que très souvent, nous, lecteurs d'Artaud, nous avons le grand tort de nous contenter de la première partie et de parler de la démolition d'Artaud, de la destruction d'Artaud, qui serait comme la rupture avec le monde, la perte de monde chez Artaud. Or, Artaud n'a jamais saisi la perte de monde que dans un effort pour se redonner des croyances. Et par quels moyens ? Il essaiera tout. Comment retrouver des raisons de croire au monde, c'est-à-dire des raisons de croire au monde qui forcément passent par la chair, d'où passent par le corps, d'où position de la chair, s'intitule le texte. Et sa première réponse, ou une de ses premières réponses, ce sera le cinéma. Et on aura à voir de plus près ce qu'il voulait dire. Parce que très bizarrement, en employant un langage très proche de celui des premiers cinéastes, il dit quelque chose, il me semble, de radicalement nouveau. Un peu comme un comtesse disait de Elifant. Je dis ce qui compte. Chaque fois que vous lisez Artaud, il faut que vous pensiez à ça. C'est pas un homme qui dit simplement « Je suis un homme qui a perdu sa vie ». Il ajoute « Et qui cherche par tous les moyens à lui faire reprendre sa place. Je suis en quelque sorte l'excitateur de ma propre vitalité. Pour moi qui dit chair, dit avant tout appréhension, poil hérissé, chair à nu, avec tout l'approfondissement intellectuel de ce spectacle de la chair pure et de toutes ses conséquences, etc. Alors, en effet, il disait que ça passe par le corps. C'est forcé. Donnez-moi un corps. Alors, est-ce que ça veut dire tout est permis là-dessus? Chaque fois, il y a des contresens, puis on peut rien condamner. Moi, je ne sais pas si c'est des contresens. Est-ce que ça veut dire une culture du corps? Est-ce que ça veut dire une cérémonie du corps? Je sais pas, peut-être que ça passe par là, peut-être pas, moi. Non. Est-ce que ça passe par une magnification du corps? Non. Est-ce que ça passe par la santé? Non. Donnez-moi donc un corps, c'est pas ça. Comprenez que ça engage bien autre chose. Donnez-moi un corps si fragile qu'il soit, c'est pas un corps bien fait qu'on demande. C'est un corps tout court. Et peut-être que les gens qui ont un corps très bien fait, ils n'ont pas de corps tout court. Redonnez-moi un corps, c'est redonnez-moi un lien avec le monde. Alors je connais des athlètes qui sont en pleine perte de monde. Pensez aux pauvres petites gymnastes. Les petites gymnastes, on peut pas dire, elles sont vraiment dans une vitrine. Un corps d'athlète, ça fait complètement partie du monde des vitrines, c'est-à-dire, elles ont beau avoir des chaînes sensorimoteurs qui ont l'air en bon état, absolument pas, elles sont en pleine rupture sensorimotrice, c'est la catastrophe. Elles ne croient plus à rien, d'ailleurs. Plus à rien, en tout cas, elles n'ont plus de raison de croire, c'est pas ça, donc avoir un corps, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut être, avoir un corps? Bon. Spinoza disait qu'il avait un corps. C'est bizarre. Lorenz disait qu'il avait un corps. Ça n'allait pas fort. Nietzsche, migraineux, à moitié aveugle, il avait un corps. Qu'est-ce qui passait par ce corps? Bon, un lien avec le monde, un rapport avec le monde, une croyance. Bon, très bien. Je dis de Kierkegaard, chez Kierkegaard, chez Nietzsche, etc., vous trouverez ce même thème. Un corps. Il nous faut un corps. L'homme n'a plus de corps. Si bien qu'il faut que vous liez les deux questions, et là c'est pour ça que l'enchaînement me paraît absolument. Retrouver des raisons de croire au monde, c'est se redonner un corps. Et les deux s'enchaînent absolument. Du coup, je pouvais faire un détour à nouveau, comme une espèce de rencontre avec le cinéma, au niveau de cette seconde chose. Donnez-moi donc un corps. Et je disais le même cinéma, qui prend pour charge, peut-être, chez Bresson, chez Dreyer, chez Godard, chez bien d'autres. Peut-être. Tout ça, c'est des programmes. Il ne faut pas me faire d'objection, puisque je dirais toujours, ah ben, je ne l'ai pas encore fait. Hein, c'est à voir, tout ça. Se propose de nous redonner, donc, un lien avec le monde, de nous redonner des raisons de croire à ce monde-ci. Ce même cinéma, je disais, va être un cinéma des corps. Et qu'est-ce que ça veut dire un cinéma du corps, là aussi? Ça veut dire un cinéma où les réactions sensorimotrices seront remplacées, en effet. On est toujours dans le régime de la perte de monde, c'est-à-dire. Vous comprenez, redonnez-moi un monde ou redonnez-moi un corps, ça ne veut pas dire refaites-moi des chaînes sensorimoteurs. Ça ne veut pas dire... Je ne sais pas comment, ça ne veut pas dire redonnez-moi le monde du savoir, le vieux monde du savoir. Puisque c'est la croyance qui va nous le redonner. Ce sera évidemment un monde d'un tout autre type, ce sera un corps d'un tout autre type. Ça ne marchera plus avec des réactions sensorimotrices, ça marchera avec. Bon. Et je vous le disais, il y a quelque chose de très curieux, c'est là qu'apparaît tout un cinéma, dans l'image cinématographique. Les enchaînements sensorimoteurs, dans toute une partie du cinéma moderne, sont remplacés par quoi? Des enchaînements d'attitude ou de posture. C'est le cas de dire qu'il n'y a plus d'histoire. Une histoire, si j'essaie de définir formellement la notion d'histoire, je dis une histoire, c'est le déroulement des chaînes sensorimoteurs. Vous voyez pourquoi? Excitation, action, nouvelle excitation, action. Les déroulements de chaînes sensorimoteurs constituent des histoires. Quand nous sommes dans des situations optiques pures ou sonores pures, là, on est quelque chose comme devant une vitrine. Il n'y a plus d'histoire.
En revanche, qu'est-ce qu'il y a? Ça va être un étrange cinéma. Je disais, regardez, une partie des films modernes. Il y a bien sûr une simili-histoire, mais qu'est-ce qui les intéresse? Un enchaînement de postures du corps. Des postures de corps qui s'enchaînent les unes avec les autres. Les corps qui se cognent, qui s'embrassent, bon, qui s'appliquent au mur, qui glissent, disait l'image... L'image archétype de cinéma, bon, le corps qui s'appuie contre le mur, qui glisse, qui se retrouve accroupi, bon, et puis les deux corps qui se cognent et puis qui s'embrassent. Qu'est-ce que c'est que cette logique des postures? On nous convie à découvrir toute une logique des postures qui a remplacé la logique de l'action. Et je citais parmi les grands auteurs modernes, je n'ai pas besoin de développer, puisque tout ça on le verra, j'espère, très précisément plus tard, je citais dans le cinéma moderne, à mon avis, en France, ça a été un des pôles, je ne dis pas le tout, mais un des pôles fondamentaux de la nouvelle vague. Ça a été le cinéma des corps chez Godard et chez Rivette, qui enchaîne des postures. Si vous pensez encore là, à une grande scène de Prénom Carmen, les deux amants, là, qui se coincent dans les portes, dans les fenêtres, tout y passe, bon... on ne peut pas dire que ce soit une histoire. C'est un enchaînement de postures, mais à toute vitesse. Deux bolides qui enchaînent leurs postures différentes. Rivette, c'est les grands moments de Rivette. Et quand je disais, c'est pas du théâtre, et c'est par là que c'est du cinéma. C'est qu'en effet, ces enchaînements de postures sont proprement cinématographiques. Et se comparent perpétuellement au théâtre. Chez Rivette, il y a la référence explicite au théâtre. Mais c'est hors théâtre que les personnages entrent dans des postures. C'est par rapport à la pièce supposée, par rapport à une pièce de théâtre supposée, que les corps, chez Rivette, vont entrer dans des postures autonomes qui ne doublent pas les attitudes théâtrales de la pièce et qui rivalisent et qui constituent la vraie matière cinématographique. Dans la post-nouvelle vague, que ce soit Ackermann, je disais, que ce soit Eustache, que ce soit, une fois dites les attitudes, son vocal, son sonore, autant que visuel, que ce soit Ackermann, Eustache, Garel, Doyon, vous avez le développement. J'ai l'air de nier leur originalité, je crois au contraire très profondément à leur originalité par rapport à la nouvelle vague, mais c'est un cinéma des postures et des attitudes. Et je disais en Amérique, c'est Cazavette. Cazavette, c'est sûrement le plus grand. Avoir fait un cinéma des corps qui se développait d'autre part dans tout le cinéma expérimental américain, parfois sous des formes cérémonielles, sous des formes rituelles. Bon. Mais avec toutes les transitions entre attitude quotidienne, attitude cérémonielle. Ce que je veux dire alors, c'est que vous avez un lien des attitudes ou des postures entre elles qui n'est plus du tout un lien sensorimoteur. Et c'est pour ça que je vous proposais d'emprunter à Brecht un mot qui me paraît très bien, le mot de gestus, pour désigner le lien des attitudes entre elles. Si bien que tout ce cinéma, toute cette image cinématographique, en effet, ne sera plus narrative, elle exposera un gestus, et ce sera à nous de découvrir le gestus, c'est-à-dire l'enchaînement des postures, l'enchaînement formel des attitudes entre elles. Et qu'est-ce que c'est? Et en quoi le gestus dépasse les attitudes de corps? Est-ce que Brecht a raison de penser que tout gestus doit être social ou politique? Je prends là un exemple rapide que je crois ne pas avoir pris. Si vous reprenez Prénom Carmen, je dirais les attitudes de corps, par exemple, des amants, renvoie un gestus qui est distribué d'une manière très très complexe, mais qui est en partie le gestus musical. À savoir, au sens où l'arrondi du bras de la violoniste, par exemple à un moment, vient fournir le gestus correspondant à l'attitude des deux amants lorsque l'un, dans un arrondi de bras, prenait l'autre. Et que donc, il y aura tout un système de résonance et d'écho, d'écho visuel, d'écho sonore, etc., où l'enchaînement des attitudes de corps se fera selon un gestus à la fois politique, social esthétique, musicale. Et tout ce cinéma sera très très compliqué. Ce sera le cinéma, la lettre du « Donnez-moi donc un corps ». Je suggérais la dernière fois, pour préparer nos analyses futures, que dans l'après-nouvelle vague, me semble aller dans cette direction, infiniment loin de quelqu'un comme Garrel. Parce que Garrel a fait un truc qui, à mon avis, n'avait jamais été fait au cinéma. Jamais, jamais. À savoir, il a profité de quelque chose qu'on reprochait au cinéma comme un manque. À savoir, ne pas nous donner la présence des corps. Par opposition au théâtre, où le corps est présent. Lui, il a retourné pour en faire une supériorité du cinéma, à savoir le cinéma, à l'être capable de nous faire assister au processus de constitution du corps. Alors ça a l'air abstrait, mais comment il fait pratiquement? Vous devez le sentir, ceux qui ont vu des films de Garrel, ou qui il le fait précisément en donnant une importance qui paraît à première vue démesurée à l'image blanche et l'image noire et toutes les variétés qui va être le matériau à partir duquel se produit la constitution des corps. Et ça va être un cinéma extraordinaire. Ou alors le gestus et l'attitude vont entrer en perpétuelle résonance à partir des trois corps fondamentaux. Les trois corps fondamentaux, c'est la femme, l'homme et l'enfant. Et ce sera les trois corps fondamentaux du cinéma de Garrel, l'entournant. Et elle a, si vous voulez, il me semble infiniment créateur en sens. Bon, mais si j'essayais de résumer un tout petit peu, je dirais uniquement, voyez la cohérence entre mes deux points. Mes deux points, c'est que mon second point consiste à dire les attitudes du corps, les attitudes ou postures du corps. Ne croyez surtout pas que ce soit des réactions. Nous ne sommes plus dans le monde du chêne sensorimoteur. C'est quoi? C'est à la lettre des éléments de croyance. C'est les éléments constituants de la croyance. C'est par là que les deux points s'enchaînent tellement. C'est les éléments constituants de la croyance. Ça nous permettrait de comprendre d'une autre façon, et je crois plus exacte, le abéticez-vous de Pascal. Parce que Pascal dit, vous voulez croire? Croire, c'est quoi? Croire, c'est prendre une posture. Prenez une posture. Alors, on comprend généralement au sens de prenez l'habitude de vous agenouiller et de faire votre prière, etc. Évidemment, il veut dire autre chose. La croyance s'écrit à la lettre, se constitue. Les postures sont les éléments génétiques de la croyance. Bon, si bien que on passe tout naturellement du premier point, substitution de la croyance au savoir, au deuxième point, promotion d'un cinéma des attitudes, promotion plutôt des attitudes du corps, parce que ça ne vaut pas seulement pour le cinéma, car c'est par l'attitude du corps que un lien avec le monde peut être redonné, ou qu'une croyance au monde, à ce monde-ci, peut être redonnée, avec tous les dangers que ça comporte, encore une fois, à savoir que la posture devienne cérémonielle, comme dans une tendance du cinéma expérimental, ou bien que la posture devienne uniquement quotidienne, comme dans une autre tendance du cinéma expérimental. Qu'est-ce que c'est au juste? Je veux dire, dans les deux cas, il n'y aura plus de gestus. Quand le gestus devient uniquement théâtral, ou quand le gestus se dissout dans la quotidienneté, il n'y a plus de gestus. Notre question, ce serait, à quelles conditions, pour reprendre cette très belle notion de Brecht, à quelles conditions y a-t-il un gestus qui soit réellement un enchaînement des postures, un enchaînement des attitudes du corps, par lesquelles une croyance au monde nous est redonnée? On n'a pas avancé, simplement j'ai remis de l'ordre, je préfère ça. Bon. Alors on en est au troisième point, puisqu'on avait quatre points à voir. On en est au troisième point, alors la prochaine fois je vous demande pardon d'avance, je le préviens pour ceux qui voudront pas, qui n'auraient pas besoin, alors qu'ils ne viennent pas, on sera forcé de faire un peu de mathématiques.